Philippe, c'est vraiment le printemps du Canadien de Montréal. Personne ne les voyait là. Comment on peut arrêter une équipe qui étouffe l'adversaire?
C'est la question à laquelle devront répondre les Knights de Vegas. Et franchement, Patrick, je suis pas convaincu qu'ils vont trouver une réponse. Je regarde le Canadien, la façon dont cette équipe-là joue, un style très efficace, très hermétique, très frustrant pour les adversaires aussi. Et hier, là, on l'a tellement senti. Moi, je m'attendais à un début de match spectaculaire des Knights de Vegas. T'as frôlé la catastrophe à Montréal. T'as perdu le match 3, puis là, tu gagnes in extremis grâce à un but en prolongation. Le match numéro 4, tu reviens chez toi, 2-2, 18 000 personnes dans les gradins. Il y a un certain momentum qui te porte. Tu sais, t'es supposé en me sauter sur la patinoire, puis je vais reprendre la vieille expression du hockey. T'es supposé manger le banc. Tu sais, t'es supposé jouer du hockey extraordinaire. C'est pas ça qu'on a vu. On a vu une équipe un peu nerveuse, un peu tatillonne, pas profondément engagé. Et là, le Canadien l'a tellement senti rapidement. Le Canadien a tellement profité de chacune de ces occasions-là pour envoyer un message aux Knights. Et plus on voyait Vegas essayer d'entrer dans le territoire du Canadien, en être incapable, les gros joueurs, tout le monde, tu sais, bon, il y a des joueurs, Jonathan Marchessault notamment, avait dit avant le match, il faut que nous, les gros attaquants, là, il y en a 6 gros attaquants dans cette équipe-là, il faut qu'on réussisse à trouver une façon de mettre Price à l'épreuve puis de marquer des buts. Mais il n'était pas capable de le faire. Et là, quand le Canadien a pris les devants 1-0, là, imagine une balloune, là, puis tu défais le nœud en bas, puis là, toute l'air sort, là. Ça a été ça, les Knights. Moi, j'ai écouté le match avec ma fille hier, puis à 1-0, j'ai dit « Inquiète-toi plus, c'est fini. Ils reviendront pas. » Ben, rien, il reste 2 périodes. Non, tu le voyais dans la façon dont l'attitude des joueurs des Knights, c'était pas une attitude volontaire. Tu sais, il y a Louis Borfiga, qui était le vice-président au développement de l'élite de Tennis Canada. Tu sais, lui, il appelait ça l'esprit combattant. Tu sais, il faut que tu aies un esprit combattant sur le terrain de tennis. Ben hier, je peux te dire une chose, c'est que l'esprit combattant au hockey, il était du côté du Canadien, puis il n'était pas de l'autre côté.
Philippe, l'esprit combattant, c'est une chose. Parfait. Et là, le Canadien semble l'avoir trouvé, abandonne jamais. Mais écoute, le grand changement avec les dernières années, même la dernière saison, on est capable de marquer.
Oui, tout à fait.
Hey, la stratégie, c'était de gagner 1-0, peut-être 2-1 sur 40 arrêts du gardien.
Ouais, c'est là que tu vois l'addition des jeunes là, qui a un impact absolument extraordinaire. Suzuki a joué du hockey énorme hier. Mais moi, je persiste à croire que le joueur qui a donné une étincelle à cette équipe-là, c'est clairement Cole Caulfield, avec son dynamisme, son sourire aussi. C'est important ce que tu dégages comme joueur
humeur.
De hockey. Oui, c'est ça. Exactement. les joueurs de hockey, c'est comme des individus dans n'importe quel milieu de travail, c'est pas tout le monde qui dégage la même énergie. Il y en a qui dégagent des énergies un petit peu plus lourdes, il y en a qui sont un peu plus enthousiastes, il y en a un petit peu moins concentrés, il y en a qui prennent ça trop au sérieux des fois. T'sais, il y a toutes sortes de monde. Coffey, lui, arrive dans ce vestiaire-là, devrait être un peu intimidé. Il arrive, il a joué toute la saison dans le hockey collégial américain. Il arrive dans la Ligue nationale comme ça, avec des Weber, des Price, des Stahl, des Perry. T'sais, il devrait longer les murs. C'est pas ça qu'on voit du tout. On voit un gars qui est arrivé, qui s'est assis dans le vestiaire, qui a pris sa place, puis qui a dit, moi, je suis capable de vous aider. Puis le but qu'il a marqué hier, écoute, c'est absolument extraordinaire. Un tir décoché à la vitesse de l'éclair. Alors, pour moi, lui, là, il est arrivé avec cette espèce d'étincelle absolument magique.
OK, bien, tu veux nous parler du VP opérations et affaires juridiques du Canadien?
Oui, est-ce que tu le connais? Il s'appelle John Sedgwick. As-tu déjà entendu son nom?
Jamais entendu parler de ma vie.
OK, alors, John Sedgwick, c'est celui qui gère un peu le plafond salarial pour le Canadien. On sait que c'est complexe, la gestion du plafond salarial. Chaque équipe en a un. On les appelle en termes de hockey les capos. Logiste. Pourquoi? Parce que c'est le salary cap, le cap capologiste. Évidemment, là, j'utilise
non, mais Philippe, on dit que c'est une science. C'est une science, c'est un art, c'est complexe.
Oui, c'est complexe. C'est complexe. Entendons-nous, c'est complexe. C'est pas la physique nucléaire non plus, là. Ça se gère, mais quand même, il y a une certaine difficulté là, à régler ça. Il faut bien connaître la convention collective, il faut bien connaître les enjeux. Alors, Sedgwick est avec le Canadien depuis 2013, il a été premier vice-président aux opérations hockey et affaires juridiques en 2017, donc c'est probablement le principal bras droit de Marc Bergevin. Et pourquoi je veux en parler? C'est parce qu'aujourd'hui, le Canadien annonce qu'il signe un nouveau contrat de 3 ans. Et juste pour donner une idée du climat euphorisant dans lequel on se retrouve à l'heure actuelle, ben sur Twitter, les gens se réjouissent de ce nouveau contrat de John Sedgwick, dont la plupart, en tout cas bien des gens, n'ont jamais entendu parler auparavant. Mais je veux simplement donner par cet exemple-là, tu sais, quand ça va bien dans une équipe, un travailleur de l'ombre que peu de fans fans connaissent, signent son contrat. C'est extraordinaire. Hey, lui, il fait tout un job. Hein, oui, il fait tout un job. Bravo. Alors, j'ai juste trouvé ça un peu rigolo. Cela dit, bravo à John Sedgwick. Pour moi aussi, cette nomination-là annonce presque forcément bientôt un renouvellement de contrat pour Marc Bergevin. Parce que c'est clair que si Bergevin n'aime pas ça travailler avec Sedgwick, ben Sedgwick, probablement qu'il ne revient pas. Mais là, il aime ça, puis tu lui donnes pas un gars de même pendant 3 ans si lui-même n'est pas sur le point de renouveler son contrat. On sait qu'il reste une année à Marc Bergevin la saison prochaine. La coutume dans le monde du hockey pour un entraîneur et un directeur général, c'est pas une règle absolue, il y a des exceptions, mais la coutume, c'est que tu laisses pas ces gens-là travailler sans nouveau contrat la dernière année de leur contrat. Pourquoi? Parce que ça envoie un mauvais message à tout le monde. Ça envoie un mauvais message aux analystes qui disent que non, est-ce qu'il joue son poste pendant la saison? Ça envoie un mauvais message aux joueurs, aux agents qui disent que non, je devrais-tu discuter de renouvellement de contrat de mon client avec lui? Vas-tu être là l'an prochain? T'sais? Alors, généralement, on les signe dans l'année qui précède la dernière année de leur contrat. Et donc, moi, j'ai l'impression que là, avec la signature de cette jouette, on sent que c'est une formalité pour Marc Bergevin éventuellement là, après soit l'élimination du Canadien ou la conquête de la Coupe Stanley.
OK, Philippe, c'est ta dernière présence à l'émission dans ses fonctions actuelles. L'année prochaine, tu vas faire une chronique à une heure qui reste à déterminer avec nous. Et tu veux faire une sorte de rétrospective de ce qui s'est passé dans le monde du sport depuis 2 ans.
Oui, bien, écoute, Patrick, quand j'ai accepté de t'accompagner il y a 2 ans maintenant pour cette extraordinaire aventure, puis avec Kat, et j'en profite pour te remercier, ça a été absolument sensationnel, chacun des moments, Catherine, merci aussi. J'aurais jamais pensé qu'on connaîtrait des moments comme ceux-là. Tu sais, je me souviens de mars 2020, Patrick, on était là, puis on annonçait ensemble l'annonce des fermetures des ligues professionnelles pour cause de pandémie. Le baseball, les camps d'entraînement, on vient de fermer les portes des camps d'entraînement. Le hockey, ça joue plus. Le basket, ça joue plus. Puis là, on se demandait, mais comment ils vont reprendre ça? Puis là, on est tombé dans une ambiance de bulle, puis on fait des finales de la Coupe Stanley au mois d'août, puis au mois de septembre, puis au mois d'octobre. Tu sais, c'est absolument inimaginable. T'sais, aujourd'hui, on a comme intégré la vie avec la COVID. Mais quand tout ça va être, souhaitons-le, rapidement derrière nous, puis qu'on va laisser passer un peu le temps, j'ai l'impression qu'on va repenser à cette période-là, puis on va dire, mais mon Dieu, c'est absolument renversant ce qui s'est produit. Puis je trouve que dans tout ça, il faut rendre hommage au sport professionnel qui a été résilient, qui a continué à mener ses activités et qui, ce faisant, nous ont amenés dans des circonstances très difficiles, des moments de distraction qui ont été bienvenus.
Absolument. Et c'est un des arguments qui militait en faveur du retour du sport professionnel il y a 1 an et quelques. Là. Écoute, on avait besoin d'être divertis, de changer les idées. Puis je pense qu'en termes de changement d'idées, le sport professionnel, c'est assez idéal.
Exactement. Alors, ça a été assez fantastique. Puis là, ben, il y a beaucoup d'événements qui ont été repoussés d'un an, ce qui fait qu'on a un été...
On dispute l'Euro 2020 présentement.
C'est ça. Puis là, bien, il en reste encore 2 semaines. Puis après ça, ça va être les Jeux olympiques. Puis bref, un été de sport extraordinaire qui nous attend.
Tu fais bien de le rappeler. Merci, cher Philippe. OK, dans la chronique Showbiz, ça va être tout à la fête nationale.
Fête nationale, Sarah May, qui est une des 6 animateurs animatrices. Et on va savoir un peu comment ça s'est passé, cet enregistrement, parce que chose qu'on a appris, c'est que s'il n'y avait plus, il aurait fallu faire le spectacle en direct. Et c'était pas tout le monde qui était disponible. Alors, hier, on remercie le ciel, puis c'est vraiment le cas de le dire.
J'ai quelques questions sur la météo, chère Catherine, à la Malbaie. Ça avait l'air un petit peu frais sur les photos que j'ai vues.
Oui.
OK, 15h35.